بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفقات للوانج وفينا الله qui nous réunit dans cette belle mosquée Al-Madina pour reprendre le tafsir de la sourate Al-Muddathir. Sourate Al-Muddathir qu'on avait... On était arrivé à la moitié à peu près, un peu plus, trois quarts de la sourate Al-Muddathir. Et je ne vais pas reprendre depuis le début, parce qu'à chaque fois qu'on reprend, ça nous prend toute la séance. Et on fait beaucoup de récapitulatifs. Donc, la dernière histoire, le dernier point qu'on avait vu de la sourate Al-Muddathir, c'est justement l'histoire de cette personne qui a été condamnée, Al-Walid ibn al-Mughira. Al-Walid ibn al-Mughira, qui avait eu la hidayah de la part d'Allah intérieurement. Il savait, c'est quelqu'un qui habitait à Mecca, il faisait partie des polythéistes, et il savait que la mission du prophète alayhi salat wa sallam était véridique, parce qu'il avait entendu la révélation, le wahi, et il savait que c'était une parole qui ne pouvait pas venir d'un être humain. Il savait que c'était une parole qui vient d'Allah Azza wa Jal. Et son peuple, Quraysh, était parti le convaincre, je suis en train de faire le récapitulatif finalement, le convaincre pour qu'il revienne sur sa position, parce que c'était un homme influent, et si lui devenait musulman, plein de gens de la tribu de Quraysh allaient embrasser l'islam, et ça lui a posé problème. Et ils lui ont offert des biens, de l'argent. C'est la faiblesse de l'être humain. Ils lui ont offert de l'argent avec promesse de certainement beaucoup plus de notoriété, plus d'acceptation, et il a eu le choix de la part d'Allah. Et c'était le dernier point qu'on a vu dans le mois de Sha'ban. Innahu fakkara wa qaddar, et ça prenait à peu près trois lignes, il y a 6 ou 7 versets sur cette histoire où il hésitait, il était prêt à suivre la vérité, mais finalement il a pensé à ses intérêts, et en finalité il a dit in hada illa qawlul bashar. Ce n'est que la parole d'un bachar, d'un être humain. Et donc, il a déclaré ouvertement son kufr et son rattachement au Quraysh et son refus de la vérité du prophète alayhi salat wa salam. Les savants disent, la réaction de Al-Walid ibn al-Mughira, c'est moi qui dis, c'est pas les savants, c'est un cas d'école. C'est un exemple concret du taqdir, du destin. Quand Allah te donne la possibilité de faire des choix, et Allah te permet d'entrevoir la vérité, mais que de l'autre côté, il y a l'argent, il y a une femme, sa beauté, il y a l'honneur, il y a ma tribu, il y a mon village, il y a ce que les gens vont dire de moi, et que finalement tu décides de suivre ce que ton nafs, j'ai dit à ton cœur, c'est pas ton cœur, ce que ton nafs te demande de suivre, la richesse, les biens, tout ce qu'on a cité, c'est un exemple très clair qu'il y a un destin, mais chaque être humain a son libre arbitre. Oui. Et les jeunes, vous avez fait philo au lycée, non? Ou vous allez le faire, le libre arbitre. C'est un thème qui revient très souvent. Et ceux qui ne comprennent pas la notion du taqdir se disent que oui, mais si tout est prédestiné, où est le libre arbitre? Est-ce que nous pouvons choisir? Débat interminable pour lequel personne ne pourra avoir un cheminement qui ira jusqu'au bout uniquement par son raisonnement, parce que le taqdir fait partie des 6 piliers de la foi. Et les 6 piliers de la foi sont basés sur le ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Tu ne peux pas voir Allah, tu ne peux pas voir les anges, tu n'as pas rencontré les anbiya, ni Adam, ni Muhammad alayhi salat wa salam, tu n'as pas vu la Torah révélée devant tes yeux, ni le Coran. J'ai oublié quoi? Tu ne peux pas voir le qiyama dès maintenant. Tout ça, c'est basé sur at-tasdiq wal-iman. C'est dedans. De la même façon, le taqdir, il y a une partie qui est de ce dunya, parce que tu le vis, le destin. Mais le reste, on va dire que la partie que tu peux comprendre, c'est l'expression, ce qui dépasse de l'iceberg. Iceberg ou iceberg, peu importe comment on le prononce. Tout le reste, c'est ghaib. Tu ne peux pas comprendre. Avec uniquement ta pensée, tu ne peux pas maîtriser. Et je réfléchis à l'histoire d'Al-Walid ibn al-Mughira en relisant le Qua aujourd'hui et en faisant un parallèle avec ce qu'on a vu mardi sur l'étude des noms d'Allah, avec l'histoire de ces deux enfants de la sourate Al-Kahf qui s'appelaient comment encore? Fasih et Kasih. l'histoire de la sourate Al-Kahf, où ils avaient un mur qui leur appartenait, le dessous il y avait un trésor, et Al-Khidr a eu l'ordre de la part d'Allah de consolider ce mur. On connaît l'histoire, tout le monde a lu Kahf aujourd'hui, Inch'Allah, Inch'Allah. Et donc, le but c'est que ces jeunes, ces enfants, quand ils vont devenir grands, ils auront le trésor qui avait été légué par leurs parents ou grands-parents, qui étaient sous ce mur. Alors que si le mur s'était écroulé, ça aurait été à la vue de tous, et ben, les gens auraient pris cet or et cet argent. Les savants disent, il y a parfois, et ce qu'on avait oublié de dire mardi, on était un peu fatigué, il y a des lataif taqdir, il y a des choses qui sont très fines et qui nous dépassent largement dans le destin. Et l'histoire de Fasih et Kasih, l'histoire de ce mur, ça nous arrive à nous tous les jours en fait. Ou alors, ça peut arriver, ou ça arrive souvent. Il y a des fois où Allah te prive de quelque chose, ou alors Allah t'expose à une situation injuste, ou une situation qui est difficile, pour laquelle tu n'es pas d'accord. C'est-à-dire, humainement, tu n'acceptes pas, tu ne comprends pas. Moi, je suis religieux, je suis pratiquant, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que il m'arrive ça, ainsi de suite? Mais parce que derrière cette difficulté, ou derrière cette injustice, derrière cette situation qu'Allah a créée pour toi, il y a un grand khair, il y a un grand bien. Et c'est de cette façon que le croyant doit comprendre le taqdir. Ce qui est écrit pour toi, fais du'a qu'Allah t'accorde Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, et tous les du'a pour avoir les meilleurs de ce monde et de l'au-delà, tu t'en remets à Allah, confiance en lui, reste de l'obéissance, et ce qu'Allah t'a accordé, Allahu Akbar wa lillahi alhamd, ni'ma min Allah. Et quand Allah te prive, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Tout appartient à Allah, et Allah donne ce qu'il veut à qui il veut, et dans chacune de ses décisions, il y a un bien. Et c'est ce istislam. Les savants parlent de al-istislam ou l'il-qadra'i ou al-qadr. Le fait de se soumettre à la décision d'Allah, au décret divin. Accepter ce qu'Allah a prédestiné pour nous. Wal-qadri khayrihi wa sharrihi min Allah. Quand il t'arrive quelque chose de bien, ushkurullah. Quand il t'arrive quelque chose de plus difficile, isbir. Fais preuve de patience, lillah. Et husnudhanni, toujours une pensée positive en ton Seigneur, que ce qu'Allah a écrit, c'est là-dedans même qu'il y a un khair. Même si ça fait mal. Des fois, on ne veut pas de quelque chose, mais il y a un bien pour nous. Des fois, on veut. La suite, c'est quoi? On veut, je fais dua, je vais devant la Kaaba, je fais dua, j'invoque Allah, je veux telle chose, je veux ce travail, je veux marier avec cette fille, je veux cette chose-là. Allah ne te le donne pas. Et Allah est Al-Alim, celui qui connaît tout. Al-Qadir, celui qui est capable de tout. Et Al-Latif, celui qui est bienveillant et qui te donne ce qui est le mieux pour toi. On referme cette parenthèse. J'espère qu'on n'est pas au tir du programme. Mais c'est important. Ça, c'est des leçons de vie. Ça, c'est des leçons de vie. Et le croyant doit être capable de... Et en fait, il ne faut pas dissocier l'enseignement religieux, la religion de façon générale, à ma vie humaine. Non, tout est lié. Ce que tu apprends, ce que tu étudies dans l'histoire des prophètes, dans le tafsir, tu dois être capable de l'importer dans ta vie pour mieux comprendre. Parce que c'est le même ilah qui a prédestiné ça à des gens avant nous. C'est le même khaliq, c'est le même seigneur. Et il agit de la même façon avec nous. Donc ça nous permet de mieux comprendre chaque jour de notre vie et chaque événement de notre vie. Hada. Et ce qu'Allah Rabbul Izza a réservé à Al-Wali ibn al-Mughira, je pense qu'on avait fait le verset concernant les châtiments. Ça uslihi saqar wa ma adraka ma saqar. Je ne me souviens pas, mais je vais juste lire la traduction. Je retrouve la page, c'est le verset 26. Je vais le brûler dans le feu intense. Et Saqar, c'est un des noms du Jahannam qu'Allah nous protège. Wa ma adraka ma saqar. Et qui te dira ce qu'est Saqar? La suite du verset. Il ne laisse rien et n'épargne rien. Il brûle la peau et la noircit et la noircit. Il me semble qu'on avait un peu abordé ces versets. Et voilà, mais je me souviens maintenant. En fait, on avait dit que ce genre de verset peut peut-être des fois choquer une personne, parce que là on a des descriptions très réalistes du Jahannam. Ibn Kathir rahimahullah, quand il commente que ça urhiquhu sa'uda, que c'est une montagne de feu, et qu'à chaque fois, fa'idha wada'a yadahu dhabat, on a vu ça, que lorsque Al-Walid al-Mughira, un de ses châtiments, le jour de Qiyamah, de le Jahannam, c'est de grimper une montagne qui sera en feu. Et à chaque fois qu'il va poser une main sur cette montagne, sa main va fondre, dhabat, va fondre à cause du feu. Wa'idha rafa'aha aadat. Et lorsque donc sa main brûle et fond et disparaît avec le feu du Jahannam, il relève son bras et la main réapparaît. Et il le fera de façon perpétuelle parce que c'est un châtiment qui se répète et se perpétue. Ce genre de tafsir, ça peut être compris si on a un certain niveau de et Allah seul les juge, hein, mais si on a une approche, on a suffisamment de iman pour accepter ces textes, on peut les expliquer clairement. Autrement, ça peut choquer. Qu'est-ce qui peut venir à l'esprit d'une personne? Attends, Allah est Rahman, Rahim. Comment est-ce qu'il peut punir quelqu'un de cette façon? C'est peut-être, on appelle ça un shubuhad, un doute, une pensée erronée qui peut parfois traverser l'esprit. C'est pour ça que les savants disent. Ali ibn Abi Talib dit, donne l'enseignement qui correspond aux gens. Ne leur parle pas de choses qui sont trop complexe. Autrement, c'est un fitna pour eux. Je ne dis pas que c'est trop complexe pour vous, mais je veux dire, quand c'est grand public, des fois, quand il y a trop de descriptions, de châtiments, et ainsi de suite, on préfère éviter, de crainte que ça peut mettre, pas un doute, mais ça peut interpeller une personne. Et justement, là, on a d'autres descriptions, ça, Ousulihi Saqar, La Tubqi wa La Tazar, dit que c'est un feu qui détruit, qui fait disparaître la chair du corps de l'être humain. Ensuite, c'est les os, c'est les membres intérieurs, et ainsi de suite. Thumma tubaddalu ghayra dhalik. Et quand tout le corps disparaît, brûlé par le feu de l'enfer, Allah ordonne que le corps réapparaît pour que le châtiment soit. Voilà, ça c'est des descriptions un peu difficiles à entendre, des châtiments de Jahannam, mais des fois, il est bon de le savoir. Ça s'appelle at-tarhib, la mise en garde. Donc on fasse très attention. Allah Azza wa Jal est clément, miséricordieux. Quand il donne énormément. On l'a vu, une nuit passée, nous dit destin, vaut mieux que 1000 mois. Celui qui a jeûné 6 jours de Shawwal, Allah lui accorde l'année en ibad. Quand Allah donne, il donne, mais de façon extraordinaire. Mais attention, si tu as tourné le dos à ton Seigneur et que la personne est morte dans cette situation sans demander tauba, ou alors ayant fait du mal aux gens, causé du tort à la société et ainsi de suite, et qu'il quitte ce dunya sans se racheter, sans demander pardon aux gens, il retrouve Allah le jour de Qiyama, le châtiment d'Allah est terrible. Nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Allah nous ressemble d'informer à ses serviteurs qu'il est pardonneur et miséricordieux. Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Mais que mon châtiment, c'est un châtiment qui est alim, qui est douloureux. C'est une réalité. On doit comprendre que l'au-delà, c'est quelque chose d'extrêmement sensible. Soit c'est un bonheur, subhanallah, ou soit ce sont des difficultés, qu'Allah nous protège des difficultés de l'au-delà. Allahumma amin. Naam. On va s'arrêter avec les passages de châtiment. Et là où on devait normalement commencer aujourd'hui, c'est Aliha tis'ata ashar. Tis'ata ashar, ça fait combien, ça, Hudhayfa? Tis'ata ashar, ça fait combien? 19. Alors, je lis la traduction. Ils sont 19 à y veiller. On parle de Saqar. D'accord? Aliha, le Dhamir Ha, c'est pas le Saqar, c'est de le Jahannam. Allah révèle qu'il y a 19 malaïka, 19 gardiens de l'enfer qui veillent et qui surveillent tout ce qui se passe dans le Jahannam. Alors ce chiffre, Ibn Kathir, rahimahullah, allez, on va commencer par des trucs plus simples. Il dit qu'il y a Rahtan min al-Yahoud. Il y avait des savants parmi les juifs qui étaient venus voir des sahaba pour poser une question pour tester le prophète alayhi salat wa salam, pour voir est-ce qu'il a vraiment une connaissance. Et ils lui ont pas posé une question simple, accessible, concernant des actes du quotidien, mais c'est une question d'une précision, une précision et une connaissance que les Arabes n'avaient pas. C'est une connaissance qui se trouvait dans la Torah. Et que même dans la Torah, c'est que ce qu'on appelle les rabbins, c'est que les chefs religieux qui connaissaient. C'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement précis. Et ils ont rencontré des sahaba. Et ils ont dit, voilà, ils ont demandé combien, il y a combien de gardiens dans le Jahannam. Et faqal Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son prophète ils savent mieux. Faja'a rajul, et la personne était voir le prophète alayhi salat wa salam, fa nazala alayhi, et Allah a révélé. Alayha 19, il a donné la réponse à ces personnes de confession juive qui étaient impressionnées parce que pour eux, il était impossible que cette personne, que cet homme ait cette connaissance. Et s'il avait ce ilm, c'est que vraiment c'est un prophète d'Allah, c'est un prophète d'Allah. Hada. On passe à tafsir de Sa'di rahimahullah, qui a cet avantage de nous apporter beaucoup de spiritualité et de faire une comparaison entre ce que nous étudions et la façon de l'introduire dans notre quotidien. عليها تسعة عشر من الملائكة. سعدي رحمه الله يقول خزنة لها. Les gardiens du Jahannam غلاظ شداد. Ce sont des malaïka qui sont extrêmement durs. Ils n'ont aucune pitié, aucune compassion. Ils peuvent voir des gens souffrir et implorer, comme il y a d'autres versets du Coran où ils implorent « Wanadaw ya Malik » et le gardien suprême de l'enfer s'appelle Malik. Donc ce sont des malaïkas qu'Allah a créés spécialement pour être dans le Jahannam. Déjà une petite parenthèse pour qu'on comprenne que le raisonnement humain, l'analogie, les lois physiques de ce dunya, ça ne marche pas là-haut. Les malaïkas sont créés de quoi ? Nour. Et Jahannam, c'est quoi? Le feu. Qu'est-ce qui éclaire plus? Une lumière ou le feu? Le feu. Le feu brûle, mais la lumière qui vient du feu, elle est théoriquement supérieure. Et on peut dire que ce sont deux éléments qui peuvent se rencontrer, c'est pas possible. Malaïka sont créés de lumière et ils sont dans le Jahannam. Donc déjà, leur entité, ce qui compose, entre guillemets, leur création, ça ne correspond pas à ce que nous connaissons de ce dunya. En termes de luminosité, est-ce que l'enfer qui brûle, la grandeur, est-ce qu'on les voit, ainsi de suite? Non. Ne t'inquiète pas, ne te pose pas trop de questions. Ça, le but, c'est de comprendre que ce qui se passe dans le akhira, ça n'obéit à aucune des règles de ce dunya. Deuxième point, ils sont dans l'enfer. Ils sont dans l'enfer. Comment ça se passe? Ils brûlent, ils ne brûlent pas. Ils ont une combinaison comme les volcanologues. Non, rien de tout ça. Rien de tout ça. Allah a décrété qu'ils y sont et ils sont dans le Jahannam avec les gens de l'enfer, mais l'enfer ne les touche pas. Exemple plus parlant encore. Est-il possible qu'un homme aille dans l'enfer et ressorte sans que ça le brûle? Ça, c'est une question. Pas pour un champion, mais pour un mashallah. Quelqu'un a une suggestion? Est-ce que c'est possible? Oui, on fait une réponse précise. Est-ce que c'est possible qu'un homme, un être humain, Bachar, aille dans le Jahannam et en ressorte sans que l'enfer ne le touche? Le prophète alayhi salat wa salam décrit une des scènes de l'au-delà lorsque les gens destinés au Jannah sont dans le Jannah et les gens de l'enfer sont en enfer et que des croyants ont été conduits dans le Jahannam à cause de leurs péchés et qu'il ne reste plus personne dans la terre de Mahshar, de la résurrection, le prophète alayhi salat wa salam va intercéder. On appelle ça le shafa'a. Il va intercéder pour les ahlut tawhid, pour ceux qui ont la ilaha illallah de leur cœur. Et le prophète alayhi salat wa salam va donc entrer dans le Jahannam et il va aller prendre les gens qui avaient la ilaha illallah un par un, pour les sortir du Jahannam avec l'autorisation d'Allah Azza wa Jal. Et les hadiths, ça on avait cité dans le mois de Sha'ban, les hadiths stipulent que le prophète retient des gens, waqadim tuhishu, qu'Allah nous protège. Ce sont des personnes qui sont déjà brûlées, noircies, carbonisées, à plusieurs reprises par le feu de Jahannam. Et c'est des gens qui prient, qui ont fait le hajj, qui lisent le Coran, qui le connaissent peut-être par cœur, qui font le dhikrullah, mais à cause de péchés, pour lesquels ils n'ont pas su demander pardon de ce dunya et ils n'ont pas obtenu le pardon d'Allah avant de mourir, Allah ne les a pas pardonnés. Et donc, jour de Qiyamah, le péché, l'expiation se trouve dans le Jahannam, qu'Allah nous protège. C'est une scène qui est, en même temps, il y a la rahma, Allah accepte le shafa'a. Il y a le hub, l'amour que le prophète a pour chaque croyant, mais en même temps, ça nous fait réaliser que des gens comme vous et moi, Allah nous protège, des fois on se sent à l'abri du jahannam, mais non, à cause d'un péché, et Allah seul sait quel est ce péché qui peut parfois nous nuire. Le prophète dit que des fois un croyant prononce une parole, hadith, qu'on a déjà cité ici, des fois on dit une parole qui est tellement détestée par Allah, que c'est une parole qui te prise, tu es là-haut là, tu es, normalement tu as un haut grade prévu dans le paradis, et que cette parole te précipite dans les abîmes au plus profond de l'enfer, qu'Allah Rabbul Izzah nous protège. Ce sont des réalités du Jahannam. Et le prophète, donc, pour revenir à ce qu'on essaie de véhiculer comme message, les lois physiques de ce dunya ne s'appliquent pas dans l'au-delà. Là-haut, c'est un autre monde, c'est un fonctionnement qui est connu que d'Allah Azza wa Jal hada. Et donc, As-Sa'di, rahimahullah, explique ensuite, « وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا » Nous n'avons assigné comme gardien du feu que les anges, ça on a déjà expliqué. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus et que croisse la foi de ceux qui croient. Bon, la traduction est un peu longue, de toute façon, on ne va pas commenter tout ça, mais on voit déjà un peu le début. As-Sa'di dit que ce que Allah Rabbul Izzah révèle dans le Coran concernant le nombre de gardiens du Jahannam, c'est une fitna, dans le sens de, c'est pour éprouver la foi des personnes qui reçoivent cette information, afin que liyastayqina alladhina utul kitaba wa yazdada alladhina amanu imana. Celui qui a iman, on commencera par la deuxième catégorie, celui qui a iman entend cette information qui est peut-être un peu difficile à comprendre quand on connaît l'étendue du Jahannam. Si on étudie les textes qui parlent de la grandeur du Jahannam, et on se dit qu'il n'y a, on peut se dire qu'il n'y a que, il n'y a que 19 gardiens dans ce Jahannam. Le mu'min reçoit le khabar min Allah, l'information, le tanzil min Allah, et il dit amanna wa saddaqna. Même si je n'arrive pas à cerner et à comprendre l'intégralité de l'information, si c'est Allah qui a révélé, j'ai iman dessus. Et j'ai une conviction inébranlable sur ce que notre prophète alayhi salat wa salam a reçu de révélation de la part d'Allah azza wa jalla. Donc ça renforce la foi du croyant. Et je fais une comparaison avec un événement de la sirat lors de la bataille de Al-Ahzab. Walamma ra'a al-mu'minun al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Iman, taslim. On avait dit quoi tout à l'heure? Istislam lil qada et wal qadr. Accepter le décret divin. Quand ils ont vu les coalisés, c'est-à-dire toutes ces tribus qui s'étaient réunies pour essayer de les détruire, des Quraysh, Ratafan, des Yahoud, plein de tribus. Le but c'était d'en finir avec l'existence même de l'islam et tuer An-Nabi alayhi salatu wassalam, femmes et enfants. C'était le but de ses ennemis. Mais ces sahaba, en voyant la difficulté des choses qui perturbent normalement une personne, ils avaient une conviction que c'est ce qu'Allah a décrété. Et ça a augmenté le iman. Alors que celui qui était munafiq, pour l'hypocrite, c'est la peur, c'est l'angoisse, c'est le doute, et ainsi de suite. Il se dérobe, il se défile. Ils ont commencé à mentir, et ainsi de suite, pour quitter le champ de bataille. Donc de la même façon, je ne sais pas si j'étais un peu loin dans la comparaison, le mu'min reçoit le wahi, il entend le wahi, ce qu'Allah a révélé dans le Coran, même si on n'arrive pas à tout comprendre, à tout cerner, on a la conviction que ça vient d'Allah et c'est haq. Et également pour les gens du livre, c'était qui les gens du livre? Les Yahoud et les Nasara, les Juifs et les Chrétiens. Et le but c'était quoi? لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ, pour qu'ils soient convaincus. Convaincus de quoi? Pour qu'ils voient que ce qu'Allah révèle de le Coran, ça correspond à ce qu'ils ont eu dans la Torah et la Injil, dans la Torah et dans la Bible. Et que cela soit un motif de guider pour eux. Ils voient que ce que cet homme a apporté, ça vient de notre Seigneur, du même Seigneur. Azzawajal. Naam. Wala yartab alladhina utul kitaba والمؤمنون. Et que ceux à qui le livre a été apporté et les croyants n'aient point de doute. Pour qu'il n'y ait aucun doute, aucune choubouhad, rien qui s'installe dans le cœur. Avec cette acceptation, comme les sahaba, zadahum iman wa taslima, ils ont, ça a augmenté leur iman et leur soumission, l'acceptation de tout ce qu'Allah a décrété. De la même façon, le mu'min accepte la révélation d'Allah, azza wa jal. Et on complète avec ce verset, wa la yartab alladhina utul kitaba wal mu'minun. Et pour que ceux qui ont au cœur quelques maladies, ainsi que les mécréants disent, non, c'était le verset après, qu'a donc voulu Allah, ماذا أراد الله بهذا بهذا مثلا. Donc pour les croyants, ça raffermit leur iman. Pour les gens du livre, ça leur donne plus de conviction sur ce qu'ils avaient eu comme révélation, et en comparaison avec ce que le prophète vient d'apporter comme révélation, que c'est haq. D'accord. Et troisième catégorie, ceux qui ont fi qulubihim marad, ceux qui ont une maladie de leur cœur. C'est pas une maladie physique, c'est pas un problème de cœur, pas un problème cardiaque, c'est ceux qui ont des doutes, qu'Allah nous protège des shubuhat, de ces doutes. Ben pour eux, ça va être une fitna. Ils vont dire, mais pourquoi, ماذا أراد الله بهذا مثلا, qu'est-ce qu'Allah voulait dire par ça? Et c'est là ils vont commencer à discuter, philosopher, chercher, essayer de comprendre, alors que le chemin le plus simple, c'est l'istislam, accepter la... Vous savez, il y a des choses qu'on peut comprendre, mais il y a des choses qui ne nous sont pas accessibles. Et c'est ça, iman. C'est d'accepter ce qui ne nous est pas accessible et être capable de s'en remettre à Allah, Azza wa Jal, et de suivre le chemin qui nous a tracé. Je conclue. Sa'adi dit, وَذَٰلِكَ مِنْ هِدَايَةِ اللَّهِ مِنْ هِدَايَةِ اللَّهِ لِمَنْ يَهْدِيهِ وَإِضْوَلَالِهِ لِمَنْ يُضِلْ. Et c'est de cette façon qu'Allah guide qui il veut et Allah éloigne de la guider qui il veut. Et donc nous devons toujours demander à Allah al-thabat, la fermeté de la foi, d'où notre demande ihdina as-sirat al-mustaqim, à chaque fois, pour que jamais on ne dévie du droit chemin, jamais on ne sort du sirat al-mustaqim, jamais notre cœur soit envahi par des doutes ou autre chose. Des fois, quand on entend plein d'informations dans les médias, et malheureusement, beaucoup de fois, on parle de l'islam et il y a toujours des attaques contre la pratique religieuse. En aucun cas, cela ne doit affecter notre iman ou ne doit nous remettre en question ou nous faire penser que peut-être il faut revoir, astaghfirullah, la religion. Peut-être qu'il y a des choses qui sont acceptables, des choses qui ne sont pas acceptables à notre époque, et ainsi de suite. Non. Tout ça s'appelle des shubuhat et des doutes. On demande à Allah, quand on demande ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est également pour que jamais le doute n'envahit notre cœur. Pour qu'Allah nous garde dans cette conviction, ce yaqin et cette acceptation totale. Et d'ailleurs, dans le nom d'Allah qu'on avait vu mardi, Al-Hafidh, celui qui protège, ça, on n'a pas eu l'occasion de voir, mais on verra mardi d'ensuite. Al-Hafidh, celui qui protège ton iman contre les déviances, contre la perdition, contre les péchés, mais également contre les shubuhat, justement. Contre les doutes, contre les pensées envahissantes qui peuvent te perturber dans ta foi. C'est à lui que tu dois demander la protection pour ta santé, mais également pour la protection de ton iman. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accepte. Inch'Allah, on essaie d'être régulier. Sauf que vendredi prochain, il y a Jalsa ici. C'est ça? Le vendredi prochain, on va pas faire programme. Et on fera, Inch'Allah, le vendredi d'après. On essaiera de, parce que là, on va arriver à un passage qui est très intéressant, qui nous interpelle. C'est le passage où les gens du paradis vont poser une question aux gens de l'enfer. Et c'est un passage que j'attendais depuis longtemps qu'on l'aborde. Ils vont demander, ma salakakum fi saqar, qu'est-ce qui vous a fait, la traduction on va lire, qu'est-ce qui vous a amené dans l'enfer? Comment êtes-vous arrivé au jahannam, dans l'enfer? Quels étaient vos péchés très concrètement? Et là, ils vont dire qu'on ne priait pas, on ne faisait pas de ihsan envers les gens. Et là, ça va être des leçons pour nous. Attention, ce sont les péchés qui mènent une personne vers l'enfer. Ce sont les péchés qui peuvent mener un croyant vers le jahannam, et qu'Allah nous protège. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil alamin.